Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous. À quelques minutes du départ de l'astronaute français Thomas Pesquet et de ses coéquipiers, départ de Baïkonour en pleine steppe kazakh pour la Station Spatiale Internationale, retour dans le débat de ce soir sur RFI sur la conquête de l'espace. L'exploration humaine a débuté il y a 55 ans maintenant avec le vol de Gagarine. Elle a été marquée évidemment en 69 par le premier pas de l'homme sur la Lune. Et on le sait, l'exploration humaine coûte cher, très cher, humainement, financièrement aussi, ce qui a ouvert un débat entre les défenseurs des vols habités et les défenseurs des vols plutôt robotiques. Homme ou robot, qui doit explorer l'espace? C'est le débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités à mes côtés dans ce studio. Philippe Hénarejos, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef du magazine Ciel Espace. Avec nous par téléphone, Philippe Perrin, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes astronaute, vous commenterez en direct ce soir le départ de Thomas Pesquet à la Cité de l'Espace à Toulouse, ce qui explique, je le spécifie pour les auditeurs, que cette émission ait été enregistrée un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Alors je voudrais qu'on écoute pour commencer cette émission Thomas Pesquet, qui explique ses motivations pour les vols habités malgré de longues années et difficiles années de préparation.
Je pense qu'on est ici pour être des explorateurs, on va dans l'ISS pour réaliser des expériences scientifiques. Mais pas seulement pour rendre possible les futurs vols, c'est vraiment une étape sur cette route de l'exploration. C'est dans la nature de l'homme d'aller de plus en plus loin, en tout cas c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on a signé, c'est pour ça qu'on nous entraîne. C'est vraiment une histoire de l'humanité en général, pour utiliser des bien grands mots, mais pour continuer cette exploration qu'on a entamée dans l'espace il n'y a pas si longtemps que ça, 55 ans depuis le vol de Yuri Gagarin cette année. Je pense qu'on est en bonne voie, il y a des gens qui travaillent partout dans les différentes agences internationales, pas que les astronautes évidemment, aussi tous les gens qui font en sorte que ces programmes puissent prendre leur envol en fait. Aujourd'hui on a des destinations identifiées, on veut retourner sur la Lune de manière plus permanente et puis on sait qu'on a tous Mars dans le viseur à une échelle à moyen terme, on va dire une vingtaine d'années. Donc si c'est moi, je serais très heureux. Si c'est pas moi, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on y aille. Et je pense qu'on est en bonne position, qu'on travaille tous dans le même sens pour y aller. C'est ça qui est important.
Voilà, c'était donc Thomas Pesquet au micro de notre envoyé spécial à Baïkonour. Simon Rosé, Philippe Perrin, vous êtes astronaute, hein, je l'ai dit dans la présentation de l'émission. Vous avez été à bord de la navette Endeavour en 2002 pour une mission d'assemblage de la fameuse Station Spatiale Internationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec Thomas Pesquet qu'on vient d'entendre, si on se prépare, si vous vous préparez si durement, c'est toujours pour préparer la suite, pour aller encore plus loin?
C'est ce qui avait été ma motivation. Je crois qu'on a des motivations communes avec Thomas. D'ailleurs, on a quelque chose de commun, c'est que on s'inspire de Saint-Exupéry. Moi, j'avais fait voler le Petit Prince. Je crois qu'il emmène avec lui des œuvres de Saint-Ex. Et d'ailleurs, Saint-Ex, c'était pas un astronaute, mais c'était un pilote qui avait réussi à prendre un peu de hauteur et à faire de sa position de pilote la position privilégiée d'un observateur. Et conquérir l'espace, c'est à la fois donc aller vers des destinations inconnues, mais c'est aussi se retourner, regarder la Terre et peut-être la regarder différemment. C'est ce que je souhaite grandement à Thomas.
Et alors Thomas Pesquet donc parle, vous dites observateur, lui dit explorateur, et puis il parle de Mars. Est-ce que pour vous aussi, c'est le prochain objectif?
C'est sûrement l'objectif le plus intéressant pour l'homme en termes de découverte de vie dans le système solaire. Il y a bien d'autres objectifs, je pense notamment à Europe, mais il y a d'autres places. Mais pour l'homme, effectivement, Mars semble bien approprié dans son accessibilité et le moyen, je crois qu'il y a beaucoup de films qui ont déjà couvert cette aventure, de s'installer sur place. Alors maintenant, pour aller sur Mars, il faudra quand même une rupture de technologie. On n'a pas aujourd'hui les moyens d'aller sur Mars. Et pour l'anecdote, quand je suis arrivé à la NASA il y a maintenant une vingtaine d'années, je suis rentré dans la salle avec toute ma promotion d'astronaute, et le directeur de la NASA m'a dit à l'époque, le prochain homme à poser le pied sur Mars est dans cette salle. Il s'était, je pense, trompé d'une génération. Donc le défi, là, il est devant nous.
Philippe Hénarejos, justement, on en est où de la préparation des vols sur Mars? Philippe Perrin vient de nous dire que c'est encore loin. Pourtant, Thomas Pesquet donne un délai, 20 ans, ça vous paraît réalisable?
Il est normal qu'un astronaute ait envie d'aller plus loin. Ce sont, comme il l'a dit, des explorateurs et c'est normal qu'ils aient cette passion chevillée au corps et que ce soit leur objectif. Maintenant, où on en est aujourd'hui d'un vol sur Mars? Si vous voulez, pour faire simple, la NASA est en train de préparer un gros lanceur très lourd pour pouvoir envoyer de grosses masses en orbite terrestre et vers Mars, qui s'appelle le SLS, qui n'a pas encore volé. Premier vol en novembre 2018, au mieux. Il y a une capsule style Apollo, mais un peu plus grande, qu'on prévoit de mettre au sommet de cette fusée pour rejoindre éventuellement un habitat ou une destination lointaine. Mais les astronautes, c'est clair, ne voyageront pas entre la Terre et Mars à bord d'une capsule aussi exiguë. Et pour l'instant, c'est tout. Alors, la NASA a annoncé qu'il y avait des appels d'offres sur des sociétés privées pour mettre au point des habitats, etc. Mais c'est encore naissant, tout ça.
Et puis, on parle aussi beaucoup de la difficulté, pour l'instant, psychologique.
Rester de longs mois en voyage
vers Mars, c'est pour l'instant la limite.
Voilà, le problème de Mars par rapport à la Lune, c'est l'éloignement. Et l'éloignement, c'est du temps. C'est du temps de vol. Soit on y va avec les moyens qu'on a aujourd'hui, il faut mettre 6 mois pour y aller, 6 mois pour revenir. Et comme entre-temps, les planètes ont bougé, en gros, ça vaut pas le coup de rester un mois sur place. Donc, on va rester un an là-bas. Donc, vous voyez la longueur du voyage. Donc ça, quand on pense envoyer des hommes et des femmes aussi longtemps dans l'espace, il faut prévoir d'emporter la nourriture, il faut prévoir d'emporter l'air pour respirer, il faut prévoir d'emporter tout un tas de systèmes. Un équipage réduit, ça semble peu probable parce qu'il faut beaucoup de compétences pour rester aussi longtemps. Il faut plus de compétences que pour aller sur la Lune qui est à 4 jours, où on peut se satisfaire d'avoir des pilotes qu'on a formés à certains des problèmes qu'ils vont rencontrer et qui restent quand même un laps de temps limité en mission. Donc, on a un gros problème.
Thomas Pesquet est très optimiste.
Mais il est optimiste, c'est normal, mais je crois qu'il est très optimiste dans le sens où, pour l'instant, le financement d'un vrai programme martien, c'est-à-dire, on prend la feuille dans une agence spatiale comme la NASA, la feuille blanche, et on écrit, voilà, le voyage vers Mars, il va s'architecturer de telle et telle manière, avec telle étape, tel test, etc. Tout ça, c'est de l'argent, une fois qu'on l'a mis sur le papier, et c'est du temps, et c'est du travail. Donc beaucoup de personnes qui vont travailler dessus. Tout ça, ça n'a pas commencé vraiment.
Et c'est aussi de la volonté, puisque c'est quand même la question qui nous rejoint aujourd'hui. Oui. Philippe Perrin, aller sur Mars, ça veut dire continuer les vols habités. On en est où du débat entre les pro-vols habités et ceux qui sont plus favorables à des vols de missions robotiques? Vous allez me dire, évidemment, il faut continuer à voler en tant qu'humain.
Oh, c'est pas moi qui le dis, ça va être les journalistes qui couvrent l'événement aujourd'hui du vol de Thomas Pesquet. On voit l'engouement de la nation pour son astronaute. Donc il y a une véritable identification. Et s'il y a identification et s'il y a volonté de partager ce voyage avec Thomas, c'est que Thomas nous parle de quelque chose d'essentiel. Donc il nous parle effectivement d'exploration, mais il nous parle aussi de volonté et de courage. Et c'est vrai que si on veut aller sur Mars, il s'agit d'avoir cette volonté et ce courage. On est peut-être dans une phase de développement de notre pays qui est un petit peu morose, et les gens ont envie d'avoir de l'ambition pour eux-mêmes et pour le pays. Et je pense que Thomas symbolise cette ambition. Alors, si on voulait aller sur Mars, il faudrait d'abord en avoir la volonté et l'ambition.
Donc pour vous, Philippe Perrin, finalement, le premier des arguments, c'est pas tellement l'argument scientifique, c'est pas l'argument financier, c'est d'abord un argument plus d'ordre philosophique,
Imaginez le défi technologique qu'ont été les missions lunaires au moment où elles ont été lancées par le président Kennedy, en se donnant une dizaine d'années, finalement moins, pour aller sur son objectif. C'était absolument hallucinant à l'époque de vouloir aller sur la Lune. Il serait finalement, je dirais, plus raisonnable avec les moyens qu'on a aujourd'hui d'aller sur Mars. Donc c'est vraiment, oui, un problème de volonté.
Philippe Edagero, je voyais faire oui de la tête.
Oui,
vous êtes d'accord?
Je suis entièrement d'accord. Et la volonté, elle se manifeste à travers les nations et à travers les États. Et effectivement, par exemple, les États-Unis, dans le contexte de la guerre froide, ont été capables de dire, voilà, on va mettre tous ces milliards, ces dizaines de milliards sur la table pour réaliser le rêve d'aller sur la Lune. C'était parce qu'il y avait une volonté politique qui était de battre les Russes. Il fallait battre les mauvais garçons en face, qui étaient les Russes. Et ça a nécessité...
Alors que là, cette fois-ci, on pourrait y aller peut-être ensemble.
Voilà, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait cette volonté pour des visées beaucoup plus scientifiques, voire culturelles. Parce que la science, c'est la culture, finalement. C'est apprendre ce qu'on ne sait pas, c'est aller vers de nouveaux horizons. Si l'humanité a ça en elle, c'est bien de le promouvoir. Mais jusqu'à présent, je douche un peu tout ça, ça s'est pas vraiment vu. C'est-à-dire que les grandes avancées, elles ont été faites pour des sortes de guerres. C'était la guerre froide ou des guerres ouvertes. Malheureusement, ça serait bien qu'on passe à une nouvelle ère, en effet.
Alors Philippe Perrin, il y a un mot qu'on a prononcé, c'est celui du coût. Ça coûterait très très cher d'aller avec des hommes sur Mars. Alors j'ai des chiffres, je ne sais pas du tout ce qu'ils valent, ils ont déjà quelques années. Certains avaient dit entre 200 et 300 milliards de dollars pour aller sur Mars avec des hommes. 1 à 3 milliards si c'était seulement un robot. Est-ce que ça vous paraît être un bon ordre de grandeur et est-ce qu'il faut financer à cette hauteur un vol habité sur Mars?
Non, c'est pas ma spécialité de financer les projets, mais on peut dire que, encore une fois, le voyage martien ne se fera que si on a une rupture de technologie, c'est-à-dire si on arrive à inventer un moyen de propulsion qui nous permette, comme expliquait très bien Philippe tout à l'heure, de rester dans la proximité de Mars et de la Terre. C'est-à-dire qu'en gros, il faut se fixer l'objectif d'aller sur Mars en un mois et demi. Donc ça demande vraiment une rupture de technologie, c'est-à-dire des moteurs qu'on commence à identifier, des moteurs à plasma, dont la source d'énergie est encore à définir, peut-être même des moteurs nucléaires. Donc on voit que le pas à franchir est assez important. Mais de toute façon, si on ne franchit pas ce temps de la distance, du temps du voyage, on est face à un défi donc de poids, puisqu'il faut, encore une fois, il faut amener de quoi vivre et survivre à l'équipage pendant 2 ans et demi, et aussi un problème d'exposition des astronautes au rayonnement. Le grand défi du voyage martien, c'est en fait de survivre au rayonnement une fois qu'on est sorti de la protection de la ceinture de Van Allen, c'est-à-dire une fois qu'on a quitté les effets bénéfiques du champ magnétique terrestre et qu'on est ouvert à tout le bombardement donc qui règne dans l'univers. Alors, aujourd'hui, on ne sait pas protéger un astronaute de ces rayonnements, et un astronaute qui partirait 2 ans et demi serait voué à une mort certaine à son retour.
Alors, sortons peut-être des vols habités sur Mars pour se poser plus largement la question du vol habité. Pour vous, Philippe Enageros, le coût supplémentaire d'un vol habité est-il justifié par la plus-value ? Est-ce que c'est plus efficace d'avoir un homme qui part dans l'espace ?
C'est difficile de répondre à cette question. Alors on peut examiner ce qui s'est passé, par exemple, avec les vols Apollo, qui encore une fois ont été financés à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, pas pour des questions scientifiques. Mais une fois que les astronautes, qui initialement étaient des pilotes, des militaires, se sont retrouvés sur la Lune et qu'il y a eu plusieurs missions possibles, puisque les fusées étaient construites, tout était construit, bon, ils allaient faire de la science. Ils sont restés 2-3 jours chacun sur la Lune, donc on les a un peu formés à la géologie, et en 3 jours de temps sur un site donné, on s'est aperçu que les deux astronautes, qui pourtant initialement n'étaient pas forcément des scientifiques, pas forcément des géologues, puisque c'était essentiellement de la géologie qu'ils faisaient là-haut, ils avaient suivi une formation géologique, et en 3 jours, même n'étant pas des spécialistes, ils ont réussi à faire des choses formidables. Ils ont fait des erreurs, bien sûr.
Est-ce qu'ils ont fait plus que si ça avait été des robots ?
Mais bien sûr, ils ont été d'une grande efficacité. Le robot Opportunity, qui est sur Mars depuis 12 ans, a parcouru 42 kilomètres. Il a fait quelques prélèvements, mais il a des instruments qui sont limités. Vous auriez envoyé, c'est totalement de la fiction, mais au même endroit, un équipage de 2 hommes, avec 3 jours de temps et puis un rover comme sur la Lune, ils auraient parcouru peut-être 3 fois plus de kilomètres, ils auraient choisi avec plus de discernement les roches à ramener, à emporter, ils auraient vu des choses que le robot n'a pas pu voir, et qu'il était limité quand même, et ils auraient fait ça en 3 jours, avec un retour qui aurait été bien meilleur.
Alors, donc là, après, je me fais un peu l'avocat. Il y a aussi l'évolution aujourd'hui de la robotique où on va créer des robots intelligents
malgré tout, les robots sont très lents, et une fois qu'ils ont leurs instruments, ils n'en ont pas d'autres. Un homme peut improviser, peut interpréter, et c'est une énorme chose que les robots n'ont pas encore, et ils ont une rapidité et une efficacité incroyables. Alors, ceci dit, après, il faut mettre dans la balance, effectivement, ce que coûte une mission humaine et ce que coûte un robot. C'est-à-dire que si on veut aller faire une mesure spécifique à un endroit, peut-être il est plus avisé d'envoyer un robot avec l'instrument adéquat qui va se poser, qui va faire le prélèvement et la mesure qu'on veut. Ça va coûter, en gros, vous parliez d'un milliard, c'est de cet ordre-là qu'on fait un rover qui se balade sur une autre planète, plutôt que plusieurs milliards, voire 10 milliards, peut-être plus, pour envoyer un équipage au même endroit. Vous voyez, je pense que les deux ne s'excluent pas. C'est-à-dire que il y a sans doute un intérêt à envoyer des hommes à des endroits où il y a beaucoup de retours à avoir, et après, il faut aussi compléter avec des robots.
Mais en fait, c'est peut-être pas l'un ou l'autre, c'est peut-être les deux en même temps. Philippe Perrin, votre avis sur la question, peut-être qu'on peut partir de l'exemple de Thomas Pesquet qui va passer 6 mois dans la Station Spatiale Internationale, qui a une tête bien faite, hein, je le disais en début d'émission et hors micro, vous me disiez très très bien faite, même vous insistiez. Qu'est-ce qu'il va faire là-haut et quelles vont être les avancées scientifiques qui vont découler de son travail ?
Alors Thomas va, j'ai pas le détail de ses expériences, je me suis un petit peu renseigné, mais je ne suis plus à l'Agence Spatiale depuis une dizaine d'années, mais il va mener des expériences dans différents secteurs. Bon, l'humain, puisque effectivement, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'exploration. Donc, on va continuer à travailler sur la physiologie de l'astronaute, préparer l'exploration lointaine. Il va faire des expériences en biologie, en physique fondamentale, et aussi dans la connaissance de l'environnement, c'est-à-dire de notre propre planète, son champ magnétique, le rayonnement justement solaire, des choses comme ça. C'est un champ d'investigation extrêmement varié auquel il va rajouter tout un tas d'exercices pédagogiques, puisque je crois que sa volonté, c'est le partage. Dans Proxima, il y a proximité, et je crois que sa volonté, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est un homme un peu de l'Internet, et c'est pour ça qu'il est aussi médiatique et qu'il est suivi par les jeunes. Sa volonté, c'est de partager son voyage avec le plus grand nombre.
Oui, et d'ailleurs, sur RFI, il va devenir notre reporter de l'espace avec un carnet de bord mensuel. Il le fait sur d'autres radios, il le fait aussi sur Twitter. Ça, c'est important aussi pour sensibiliser le public, pour partager ses expériences.
Oui, je voulais revenir sur la problématique donc homme-robot. Il n'y en a pas, bien évidemment. C'est comme vous disiez, si justement c'est l'un et l'autre. Moi, je vais par exemple dans ma mission participer à la réparation du robot de la station qui était en panne. Il était tout simplement cassé. Et si l'homme n'était pas intervenu, c'est tout l'assemblage de la station qui s'arrêtait sans aucune possibilité de remplacement. Donc moi, j'ai été amené à réparer le robot. Donc on est vraiment complémentaires. Un robot, c'est comme une grue sur un chantier. Et donc quand on construit une maison, ben, il faut des grues, il faut des hommes, etc. Et ce qui est important, je pense, dans l'exploration lointaine, c'est aussi que l'homme soit un témoin. Bon, il me semble très important, encore une fois, on voit l'engouement du plus grand nombre pour le vol de Thomas, qui est important, c'est de se projeter, d'être capable de se projeter soi-même, donc en dehors de la Terre. Et ça, c'est fondamental, encore une fois, pour l'exploration, comme pour le recul qu'on a sur notre propre planète. Moi, je prends un seul exemple. On observe la Terre depuis des années, on a des données, on a des photos, l'éveil des consciences sur les problèmes de pollution, notamment en CO2, font que... On met beaucoup de temps à émerger dans les consciences, et je pense que les astronautes, parce qu'ils regardaient la Terre, je me souviens par exemple avoir eu des problèmes de pollution à l'œil nu. Vous voyez la pollution industrielle quitter la Chine, être balayée par les vents dominants, et être emmenée comme ça jusque sur la côte ouest des États-Unis. Donc, quand un astronaute témoigne, je pense qu'il amène quelque chose de plus, c'est-à-dire un état de conscience.
Philippe Hénagéros, j'imagine qu'en tant que rédacteur en chef de Ciel Espace, vous ne pouvez que souscrire à ce qui vient d'être dit.
Oui, absolument. Il y a quand même cette dimension d'exploration à la fois de ce qu'on ne connaît pas. On a peut-être ça dans nos gènes, hein, finalement. On a fait ça depuis le début. Et peut-être aussi...
Et peut-être surtout maintenant.
Et d'observation
vu le contexte.
Voilà, de où nous sommes. On prend quand même conscience, avec des êtres humains dans l'espace, que nous sommes, nous, sur Terre, déjà sur un vaisseau spatial, que celui-ci a des dimensions finies, a des ressources finies, et que comme à bord d'une capsule Apollo en marche vers la Lune, si vous commencez à dépenser plus de ressources que vous n'en avez à bord, eh bien, ça ne marche plus. Donc, c'est quand même important. Je pense que la seule observation de la Terre par des satellites, qui est très efficace, ne suffit pas. C'est vrai qu'il faut un témoin, il faut des témoins, il faut des gens qui témoignent de ce qu'ils vont découvrir, peut-être un jour sur Mars, mais il faut qu'ils témoignent aussi de l'endroit où nous sommes.
Donc quand certains experts, c'est juste pour terminer, il nous reste quelques secondes, disent que par exemple la volonté de gagner la course à la Lune avait peut-être même retardé les progrès dans la technologie des satellites, pour vous on est complètement à côté du sujet finalement.
Non, je ne crois pas que ça ait retardé la technologie. Ça a peut-être... Alors quand certains disent oui, tous ces milliards dépensés pour la Lune, ils n'ont pas été dépensés dans la recherche spatiale, dans d'autres domaines. Je ne suis pas sûr que ce soit exact, parce que ces milliards, encore une fois, ils n'auraient pas été dépensés dans la recherche. C'est-à-dire la volonté politique de dépenser une telle somme ne se serait pas faite sur de la recherche scientifique, à mon avis, à cette époque-là.
Philippe Perrin, vous souscrivez à cette analyse ?
Oui, on dit souvent, par exemple, que l'avance et les progrès de l'informatique américaine découlent de l'investissement qui a été fait sur les missions Apollo. Et on pourrait imaginer que si l'effort avait été fait par l'Europe, les Google aujourd'hui... serait européen, il serait pas américain.
Et ben voilà, on va rester sur cette conclusion. Merci beaucoup à vous deux, donc à Philippe Perrin, astronaute. Je rappelle que vous commentez ce soir ce décollage à Toulouse. On vous souhaite une bien belle soirée. Philippe Hénagéros, rédacteur en chef Ciel Espace. Merci à Florence Ponce, à Yann Eligouin, à Simon Rosé qui nous a beaucoup aidé alors qu'il est au milieu de la steppe kazakh et qu'il est ravi dans quelques minutes, je le suis sûr, de suivre cet exploit de Thomas Pesquet. On se retrouve lundi pour un nouveau débat. Merci de nous avoir écoutés.